Bonsoir. Vous êtes bien sur RCV Radio Campus Vauban à Lille et nous sommes sur J'enrage, une émission féministe dont vous êtes sur vous écoutez la 12e émission de J'enrage.
Et aujourd'hui c'est le 5 août.
Et nous sommes le 5 août. Alors vous excuserez un peu nos voix, ou en tout cas ma voix caverneuse qui sort tout juste de 4 jours intenses passés aux Nuits Secrètes, qui est un festival de musique qui a lieu à Aulnoy-Aymeri dans le Nord, le 2, 3, 4 août. Et justement, je vais vous parler très rapidement de ce festival puisqu'il y a une programmation qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors, les Nuits Secrètes existent depuis 12 ans maintenant, c'est la 12e émission. Il y a plusieurs choses assez intéressantes. C'est un festival qui commence à prendre un peu d'ampleur. Il y a quelques têtes d'affiche et il y a deux scènes, une gratuite, une autre payante, et également ce qu'ils appellent les parcours secrets, c'est-à-dire que la programmation n'est pas connue du public. C'est une découverte. Et donc là, cette année, trois groupes qui auraient pu vous intéresser. Il y a eu Sexy Sushi, dont qu'on ne présente plus, comme on dit, mais qu'on présente quand même, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous connaissez pas Sexy Sushi. On avait passé Sex Appeal dans les premières émissions, c'est la plus écoutée, le Sex Appeal de la policière me fait mouiller devant, derrière, voilà. Et ensuite, donc là, on a décidé d'en diffuser une autre, puisque donc ils s'étaient donné aux Nuits Secrètes. C'est ce qu'on appelle de l'électro-clash. Vous me demandez pas d'expliquer ce que c'est, je suis incapable, mais vous pouvez aller vérifier sur le net. Et donc la chanteuse s'appelle Rebecca Warrior et le musicien qui l'accompagne toujours, enfin ils sont à deux, c'est un groupe, c'est Mitch Silver. Et donc c'est un groupe français, ils abordent pas mal de thèmes qui intéressent le féminisme de près ou de loin. C'est quand même assez politisé, leur texte. Et voilà.
Donc, et Suzanne va vous la chanter à cappella.
Et la chanteuse, et voilà, et vous aurez droit à un petit show a cappella. Vous allez voir, ça en jette. Et donc voilà, la chanteuse est assez barrée. Donc le concert où j'étais était plutôt sympa. Il y avait l'un des mecs du groupe, enfin non, justement qui faisait pas partie du groupe, mais qui était là pour la performance, qui sciait une barrière sur le devant de la scène en portant une cagoule SM. C'était assez marrant. Et donc voilà. Et puis sinon, il y a eu alors Skip and Die, auquel j'ai pas pu assister. Alors Skip and Die, c'est un groupe sud-africain et néerlandais, pardon, dont la chanteuse s'appelle Kata Pirata, et qui est accompagnée de tout un groupe. Elle chante dans 4 des 11 langues l'Afrique du Sud, excusez-moi, à savoir l'anglais, l'afrikaans, le xhosa et le zoulou, et parle également espagnol et portugais. Ils écrivent des textes pareil assez engagés, et le groupe s'est produit notamment aux Rencontres Transmusicales en 2012 et aux Femmes Sans Mêle à Paris en 2013. Donc vous écouterez juste après Skip and Die, c'est pareil, ça en jette pas mal. Et enfin, un groupe qui s'appelle La Femme, donc LA plus loin FE2ME, et qui est un groupe de rock français qui contient, c'est intéressant de le noter précisément en raison du nom du groupe La Femme, puisqu'il est à majorité masculine, et que la chanteuse en revanche s'appelle Clémence Kelenek. Voilà, donc c'était pour la brève présentation. Je vous balance tout de suite une chanson de Skip and Die dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Jungle Riot.
Et voilà, nous sommes de retour, Suzanne et moi. Le programme de ce soir que Suzanne a oublié de présenter. Et on va commencer avec une petite rubrique littérature. On vous présentera un bouquin que j'ai lu cet été au mois de juillet, qui s'intitule La planète au vent de folie, qui est écrit par Marion Zimmer Bradley. On revient dessus tout de suite. Et en deuxième partie d'émission, Suzanne vous présentera ce qu'est le black feminism. Je traduis pas, je fais exprès de pas traduire, elle vous en parlera un peu plus. Qui est un bouquin c'est un bouquin qui est composé d'un ensemble d'articles qui ont été choisis et compilés, on va dire, par Elsa Dorlin. Elle vous en parlera juste après. Donc tout de suite, sans transition. Ou t'as quelque chose d'autre à ajouter, Suzanne ?
Non, c'est bon, tu peux y aller.
Sans transition, donc La planète au vent de folie de Marion Zimmer Bradley. Alors Marion Zimmer Bradley, pour revenir mes deux petites minutes dessus, c'est une auteure qui est née dans les années 30, en 1930 exactement, et qui est connue notamment pour ses romans plutôt de fantasy. Celui que je vous présente ce soir, il est plus roman d'anticipation, science-fiction, il tire vers la fantasy. Et c'est le premier opus d'un cycle qui s'intitule La romance de Ténébreuse, qui là, pour le coup, tire plus vers la fantasy au fil du récit, quoi. Et donc La planète au vent de folie, c'est un roman qui est donc à la croisée des genres entre science-fiction, roman d'anticipation et fantasy, donc un peu hybride, et qui met en scène les relations de pouvoir, on va dire, qui structurent les interactions entre les passagers d'un vaisseau spatial qui a échoué. Donc, via ces différents personnages qui sont présentés dans le livre, Marion Zimmer Bradley en profite pour aborder des thématiques féministes, par exemple, comme la thématique du contrôle des corps et des naissances. Elle aborde explicitement des thématiques féministes comme le droit à l'avortement, tout ce qui est politique nataliste, etc. Et elle aborde d'autres thématiques, notamment politiques, avec en gros un affrontement entre deux courants, d'un côté les néo-ruralistes et d'un autre les technocrates. On en reviendra tout de suite dessus. Et donc, avant de spoiler pour ceux qui voudraient le lire, juste une petite présentation. Donc le livre ouvre sur, en gros, un vaisseau spatial qui s'appelle Aéronef, qui s'échoue sur une planète qui n'était pas censé coloniser, et il s'échoue là, et en gros ils sont coincés sur cette planète qui s'appelle Ténébreuse, mais au début du roman elle n'a pas de nom encore. Et ils envoient une petite expédition pour voir un peu, pour explorer en gros, et pour connaître un peu mieux la faune, la flore, le temps, etc. Et savoir exactement où ils sont, parce que en gros, en montant sur une montagne, ils peuvent avec un astronome, ils peuvent savoir à peu près où ils sont dans la constellation. Donc voilà, c'est un roman qui s'ouvre sur ça. Et en gros, ils se retrouvent à devoir coloniser une planète qui est inconnue, qui, au premier abord, semble vierge de toute civilisation. Et donc, s'offre à eux la responsabilité de construire une société à partir de rien. Donc, la société n'est pas construite dans le premier bouquin, elle est construite ensuite, mais on commence déjà à voir... Enfin, il y a les prémices, il y a les premières pierres de la future société qui y sera construite. Donc voilà, pourquoi c'est un bouquin qui est intéressant ? Alors premièrement, c'est une écriture qui est féministe. Ce féminisme, il s'exprime dès le départ avec l'expédition, puisque au récit traditionnel d'exploration, comme dans les bouquins de, je sais pas, Jules Verne et autres. Romans dans lesquels les équipes d'explorateurs sont tous des explorateurs ou presque. L'équipe d'exploration est premièrement composée quasiment d'autant femmes que d'hommes, mais par ailleurs la distribution des compétences scientifiques est tout à fait égalitaire, puisque les personnages féminins ont autant de responsabilités et ont un parcours scientifique des qualifications aussi importantes que les hommes. Donc dès le départ, il n'y a pas de hiérarchie et l'équipe est aussi féminine que masculine. Après, si de prime abord, la narration semble exprimer plutôt la subjectivité d'un seul personnage, celle de McCarran, elle s'avère en fait être omnisciente, donc elle donne à lire les pensées de tous les personnages principaux. Et ce faisant, Marion Zimmer Bradley réussit en fait à exposer les réticences des personnages masculins, notamment celui de McCarran, la participation des femmes à l'expédition et durant tout le récit, en gros, elle arrive à remettre en question les a priori masculinistes des personnages masculins. C'est-à-dire qu'en gros, elle nous donne à lire leurs pensées. Donc là, par exemple, dès le départ, hein, dans les premières lignes, page 28, elle écrit « McCarran haussa les épaules ». Attendez, que je retrouve. « McCarran haussa les épaules ». Merde. McCarran haussa les épaules. Il ne faisait pas de chauvinisme mâle, et si la jeune femme s'estimait capable d'exécuter les longues marches de l'expédition, elle y arriverait probablement. Donc dès le départ, et elle commence déjà à parler de ces espèces d'a priori masculinistes sur les capacités des femmes à, enfin leur force physique, etc. Après, plus loin dans le bouquin, le capitaine qui s'appelle, je me souviens plus. Bon bref, le capitaine du vaisseau remet en question l'esprit scientifique de son officier qui s'appelle Camilla Del Rey, parce qu'elle est enceinte en gros, et il parle des hormones qu'elle peut avoir, et en gros il a un gros a priori masculiniste en disant que anciennement les femmes pouvaient pas faire de carrière scientifique parce qu'elles pouvaient tomber enceinte et ça perturbait leur esprit, leur rationalité quoi. Et en gros pendant tout le bouquin, les personnages féminins réussissent à déjouer ce machisme, quoi, ce sexisme, soit en faisant preuve d'une rationalité qui est plus forte même que certains personnages masculins, mais aussi en montrant qu'elles sont aussi fortes physiquement, qu'elles sont fortes mentalement aussi. Et même, en l'occurrence, là, pour Camilla Del Rey, qui est donc officier, qui est lieutenant, en lui faisant prendre le rôle de pôle sexuel, c'est-à-dire en étant à la fois corps attractif, puisqu'elle polarise à la fois l'attention du capitaine Leicester et de McCarran, qui sont deux personnages très importants, mais en étant aussi corps, actif, puisque celle qui prend la décision, c'est elle qui décide avec qui elle va avoir des relations, où s'arrêteront ces relations-là, et si elle en veut ou pas, quoi. Alors que les personnages masculins dépendent entièrement d'elle et sont, pour le coup, dépossédés de tout pouvoir décisionnel. Donc là, c'est un peu un renversement de situation, généralement, dans les bouquins traditionnels comme ça, d'aventure, quoi. C'est plutôt les hommes qui sont à la fois corps attractifs et corps actifs, comme comment ça s'appelle le roman d'aventure où il cherche la Tomb Raider mais version masculine, là, comment il s'appelle,
le Saint Graal, attends,
le mec qui cherche,
ah oui, Indiana Jones
par exemple, voilà, qui le fait tout tomber, c'est le mec qui c'est le gros personnage principal, quoi. Donc là c'est l'inverse, et on pourrait même extrapoler une des histoires. Donc une des protagonistes qui s'appelle Judith, qui a une relation sexuelle avec un autochtone qui est un être inconnu, qui est humanoïde mais il est pas humain non plus. On pourrait l'interpréter carrément comme une inversion du modèle de l'histoire de Pocahontas, qui a été repris à la fois par Disney et par Terrence Malick dans le film Nouveau Monde, dans lequel c'est le colon qui vient d'une civilisation qui est considérée comme supérieure et qui vient séduire la petite native. Là, c'est l'inverse, justement. À la fois, les êtres humains, les colons arrivent sur une planète qui est déjà habituée par une espèce qui est apparemment plus évoluée. Et c'est la femme qui vient avoir des relations sexuelles avec l'autochtone. Voilà, donc c'est une écriture féminine, pas parce que l'auteur est féminine et femme, pardon, et parce qu'il y a il y a pas mal de personnages principaux qui sont femmes, mais plus subtilement parce que les subjectivités féminines sont réhabilitées, on va dire. Elles ont des rôles, enfin les femmes ont des rôles très importants dans le récit, à l'inverse des romans traditionnels d'aventure et de science-fiction. et à la fois parce que en gros les principes de la enfin des masculinités qui existent dans le livre sont déconstruits et enfin les principes de des masculinités qui généralement s'érigent comme enfin se enfin font rempart à l'émancipation des femmes. Donc je sais pas moi par exemple le paternalisme des hommes de manière générale dans le, enfin dans les dans ce genre de bouquins quoi. Là ils sont déconstruits au fur et à mesure de la narration. Donc définitivement féminine, donc une écriture que moi je qualifierais de féminine. Après pourquoi c'est une écriture féministe? Pourquoi c'est un bouquin féministe, pardon? Parce que durant toute la narration, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, des thématiques féministes, justement comme le contrôle des corps des femmes, à la fois par les femmes avec la contraception, donc elle en parle dès le début, ça, qui est présenté comme un instrument d'émancipation des femmes, et à la fois du contrôle des corps des femmes par la société de manière générale, que ce soit dans le cadre d'une politique nataliste, là, en l'occurrence, ou l'inverse, puisque, en gros, sur Terre, comme la Terre est surpeuplée, en gros, ils avaient une politique de l'enfant unique et la grossesse et l'enfantement et comment dire le fait d'avoir des enfants quoi est plutôt enfin est pas présenté comme quelque chose de nécessaire pour les femmes et en gros d'un coup vu qu'elles doivent repeupler une planète qu'elles sont en train de coloniser on leur ôte le droit de choisir si elles veulent ou non avoir des enfants et il y a la mise en place d'une politique nataliste et du coup elles sont réquisitionnées pour procréer en gros. Donc d'une part il y a la réaffirmation de la division sexuelle du travail qui est de moins en moins forte de nos jours et dans le bouquin qui est présenté comme quelque chose qui est quasiment inexistant puisque c'est un roman qui se déroule dans un espace temporel, ouais c'est ça, plus lointain dans lequel ils ont évolué vers une société où il y avait beaucoup plus d'égalité entre hommes et femmes. Donc là, d'un coup, ils reviennent en arrière, quoi. Donc, ils réaffirmaient cette division sexuelle du travail et la gestation leur est opposée dans cette nouvelle société. Donc, on leur retire complètement leur libre arbitre, et elles passent d'une société où elles avaient beaucoup plus de droits à une société où elles sont, voilà, c'est ce que je disais avant, réquisitionnées pour procréer. Donc, je voulais juste faire une petite citation qu'il y avait en page 176, où Marion Zimmer Bradley nous donne à lire les pensées de Camilla, donc qui est tombée enceinte, où elle dit en gros, le médecin-chef a annoncé l'échec de la contraception il y a 2 mois environ. Il semble que je fasse partie des victimes. Il s'agit seulement de m'inscrire pour un avortement. Donc voilà, en gros, c'est ça. Elles ont vécu, enfin, elles vivaient dans une société où tomber enceinte, c'est être cette victime finalement de la nature, on va dire, en quelque sorte. Et elles assimilent là le fait qu'on la force à avoir des enfants à une barbarie, quoi. Et elle se décrit elle-même comme une matrice ambulante venue des planètes préhistoriques. Donc voilà, c'est quand même une thématique qui est assez importante, surtout à la fin du livre. Par exemple, ils expliquent comment. Enfin, c'est super bien fait. Hein, c'est bien introduit. C'est pas quelque chose de lourd. Ils expliquent par exemple comment les femmes doivent signer un contrat qui stipule qu'elles s'engagent à avoir des enfants avant de pouvoir être acceptées dans les vaisseaux qui vont coloniser des nouvelles planètes, etc. Donc finalement, c'est considéré comme un. Enfin, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est considéré comme un travail, du coup, le fait de procréer. Donc, ça peut être, c'est une espèce de réhabilitation aussi de la grossesse et de la gestation. Donc, c'est pas si mal que ça. Bref. Ils parlent notamment aussi de lutte féministe et de l'émancipation des femmes. Puisque, au moment où le médecin lui dit qu'elle va être obligée d'enfanter. En gros, il réinterprète la libéralisation de la femme comme une réponse au déclin pathologique des femmes, enfin de l'instinct maternel des femmes, du fait de la surpopulation. Donc en gros, la révolution, enfin les, en gros l'émancipation de la femme, la contraception, etc. Lui, il le réinterprète comme tout simplement le fait que comme il y avait trop d'êtres humains sur Terre, la femme a eu, enfin l'instinct maternel des femmes s'est réduit naturellement et elles ont arrêté d'avoir envie des enfants, d'avoir des enfants quoi. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Je le présente pas, peut-être pas du mieux possible à cette heure-ci. Mais donc il y a toutes ces thématiques donc du droit de choisir si on veut un enfant ou pas, de la biologisation de l'instinct maternel là en l'occurrence. Et
ou de la production du mythe de l'instinct maternel.
Ouais, voilà, exactement. Et donc le livre montre le paternalisme des hommes dans cette nouvelle société. Enfin, en gros, comment elles sont, comment elles arrivent, comment leur statut est, enfin, devient précaire d'un jour à l'autre. Enfin, comme si en gros c'était les lois de la jungle de nouveau parce qu'elles sont sur une nouvelle planète, quoi, en gros. Et finalement, du coup, l'auteur associe détechnologisation, on va dire, de la société avec un retour justement à ces, enfin, à ces mystifications de la femme, quoi, comme disait Suzanne, enfin, à ces créations de mythes, quoi. Et finalement, il y a un retour quand même de situation à la fin de, à la fin du livre, puisque du fait qu'elles doivent, que les femmes doivent procréer et pour préserver la diversité génétique, les femmes finalement sont poussées à avoir plusieurs partenaires. Et donc là, en l'occurrence, Camilla a le choix entre, en gros, les deux amours, enfin, ces deux amours sur la planète, là, Leicester et McCarran, qui sont totalement, enfin, dépossédées de nouveau de leur pouvoir décisionnel sur leur relation sexuelle et amoureuse en l'occurrence, et qui doivent partager la même femme, quoi. Donc voilà, à part ces thématiques féministes, donc à part le fait que ce soit une écriture à la fois féminine et féministe, l'auteur traite d'autres thématiques politiques aussi. Et pendant le, enfin dans le livre, il y a deux courants philosophico-politiques qui s'affrontent. D'un côté, les technocrates qui en gros associent civilisation et technologie et savoir scientifique. Et qui traite les colons qui ont un savoir qui est considéré comme plus basique, qui est un savoir aussi, c'est une science finalement différente, mais c'est des sciences de, enfin l'agriculture et ce genre de choses quoi, qui est, enfin qui est associée à la civilisation aussi, mais qui est, enfin en gros c'est ces paradigmes de technocratie etc sont remis en question dans le bouquin. Et c'est fait de manière très intéressante et c'est beaucoup plus léger que d'autres bouquins qui traitent de thématiques politiques. Je pense notamment à au roman d'anticipation 1984 que moi j'ai adoré, mais le passage sur le manifeste politique est super lourd à lire et là c'est bien présenté, on comprend les enjeux à la fois des technocrates et des néocolonialistes. Des néo-ruralistes, pardon, et elle aborde aussi d'autres thématiques comme le néocolonialisme qui serait la conjugaison à la fois d'un nouveau colonialisme qui respecterait l'environnement, les écosystèmes et prendrait en compte le fait qu'il y ait d'autres espèces intelligentes sur la planète, quoi. Enfin, très très intéressant. Et elle étudie bien aussi les processus de désolidarisation des membres d'un même groupe, quoi. Et ce phénomène de division en groupuscule, on va dire, idéologique, c'est super bien étudié aussi. Elle aborde aussi un espèce de néo-arianisme qui est abordé dans le livre, qui est incarné par un groupe de gens qui proviennent de ce qu'on appelle les hybrides, qui est donc tout ce qui est Irlande, Écosse, etc. Et qui accepte seulement les gens qui portent un nom à consonance, celtique, qui est roux ou genre de choses, quoi. Et enfin, c'est super bien fait en tout cas. Des belles questions politiques, ils sont traités et de manière légère. Donc je vous pousse à le lire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, à aller sur le blog. Il y aura bientôt un article qui sera mis en ligne. Voilà, je passe la parole tout de suite à Suzanne. On va mettre une petite chanson peut-être pour faire une pause.
Oui, juste avant la chanson, voilà, enfin, juste ce que tu viens de dire, ça m'a bien donné envie de lire le livre, en tout cas, de Zimmer Bradley. Je vais peut-être pas commenter beaucoup plus parce que je crois que tu en as dit vraiment pas mal, mais c'est vrai que ça a l'air d'aborder pas mal de thématiques vraiment intéressantes. Et parler d'écriture féminine et féministe, ça pourrait porter à long débat, je pense. Même est-ce qu'on peut parler d'écriture féminine ou pas ? Est-ce que c'est essentialiste ou pas de dire ça ? Je sais pas. Ça pourrait être l'objet d'un débat peut-être.
En l'occurrence, moi, j'appelle ça féminine pas parce que c'est une auteure, pas parce que c'est une femme, quoi. Du coup, c'était pas en essentialisant ce que ça doit être une femme qui écrit, quoi. C'était plutôt dans une optique de réhabilitation des subjectivités féminines dans le bouquin, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre correctement.
Oui, tout à fait. Non, mais ça pourrait être considéré malgré tout. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant et je rejette pas nécessairement le terme, mais ça pourrait quand même être considéré comme pouvant produire une nouvelle mythologie de la subjectivité féminine, précisément. Mais bon, enfin, en même temps, c'est toujours ce qu'on fait et... Enfin, moi, je rejette pas spécialement ça. Mais bon, bah voilà. Du coup, on va mettre Sexy Sushi, J'aime mon pays. Et puis juste après, on revient avec, comme elle disait tout à l'heure, Black Feminism, qui est le mouvement du féminisme noir américain, dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, je balance tout de suite la chanson de Sexy Sushi.
J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas donner mon pognon.
Voilà, on est de retour sur J'enrage pour la 12e émission, comme on l'a dit au début. Donc voilà, là ce soir, je vous présente un mouvement politique et d'abord, enfin également plutôt, un livre qui s'appelle, qui présente ce mouvement politique qui est en fait le Black Feminism, que l'on peut traduire par féminisme noir. mais qui a le désavantage, la traduction a le désavantage de perdre la spécificité du contexte américain qui diffère quand même pas mal du contexte français, qui n'a pas eu, comme aux États-Unis, un tel, une telle collectivisation des énergies des femmes noires dans les années 70-80. Qui se sont en gros voilà de que qu'est-ce que l'on peut dire en, en deux trois lignes du black feminism, le féminisme noir, donc c'est un mouvement qui c'est qui est né, on va dire, dont la genèse, l'histoire, etc., est né de dissidence vécue par des femmes noires, précisément, enfin qui s'identifient, qui se sont identifiées par la suite comme femme noire, puisque c'est une identité politique, femme noire, c'est-à-dire cumulant deux types d'oppression, raciale et sexuelle. Et donc voilà, en gros, ces femmes, un certain nombre de femmes se sont senties exclues, non concernées par deux mouvements politiques, à la fois le féminisme les mouvements féministes des années 70 aux États-Unis, qui a en fait été monopolisé principalement par des femmes blanches, et qui, dont les luttes, dont les questions, dont les problématiques, à la fois concernaient quasiment exclusivement les femmes blanches, et souvent sans pour autant que les femmes noires elles soient exclues explicitement. C'est bien là l'intérêt du black féminisme, et on en parlera après. C'est l'idée de penser une identité de femme noire, puisque l'une des critiques principales du féminisme, c'est de critiquer l'universel, c'est-à-dire c'est le point de vue qui se prend pour l'universel, mais qui en fait est situé et en fait raconte, enfin et souvent finalement le discours produit par une classe privilégiée. Et c'est ce qu'ont voulu relever ces féministes qui ont noté, ont voulu appuyer sur un racisme dans les mouvements féministes, un racisme blanc, ont voulu soulever et ont voulu forcer à reconnaître quelque chose qui était quasiment impossible, que les féministes blanches reconnaissent ça, puisque pour les féministes matérialistes des années 70, la première oppression, qui, puisqu'il y avait vraiment une, on va dire, une hiérarchisation des oppressions, c'est donc l'oppression des femmes par les hommes, et donc qui transcende, on va dire, l'oppression raciale, l'oppression sexuelle, etc. Donc, même également, puisqu'il y a aussi des dissidences entre hétérosexualité et homosexualité. Et donc, le problème est que j'ai perdu le fil là où je voulais dire. Oui, le problème est que voilà, ces femmes dont je citerai plusieurs noms par la suite, également des articles pour que vous puissiez ensuite aller et checker éventuellement dans une bibliothèque ou sur internet, se sont senties, enfin, ont senti qu'il y a il leur paraissait important de relever à la fois le racisme, un racisme structurel, enfin qui structurait les relations entre femmes blanches et femmes noires, c'est-à-dire que concrètement les femmes puissent se penser comme oppresseurs au regard des femmes noires, ce qui était quand même, qui n'était pas du tout relevé à l'époque. Et parallèlement, on critiquait le sexisme des mouvements de libération noire qui ont permis, auxquels la plupart de ces militantes chercheuses ont participé, dans lesquelles elles se sont beaucoup impliquées, mais qui ont été confrontées, en fait, plutôt confrontées à un sexisme qui en plus, en fait, elles étaient complètement exclues finalement, elles étaient au cœur, dans le point aveugle finalement de ces deux agendas, qui ne voulaient pas du tout penser le sexisme dans les mouvements de libération noire, qui pensait qui avait pour but notamment valoriser la culture noire, de lutter contre l'oppression raciale, contre la ségrégation, mais qui ne remettait pas du tout en question certaines structures patriarcales, et qui pensait aussi, et ça c'est une croyance conscience, c'est une conviction plutôt partagée par plusieurs femmes noires, à savoir que le féminisme n'est pas un mouvement noir, il est un mouvement blanc. Ce sont les femmes blanches d'abord les qui et donc l'une bon bref je reviendrai un peu sur ces convictions qui sont assez révélatrices d'une homogénéisation de des mouvements féministes et de l'importance de remettre en question toujours le sujet du féminisme, c'est-à-dire qui parle pour qui et à la place de qui. Et donc le bouquin dont je vais vous parler, qui s'appelle Black Feminism, anthologie de féminisme africain américain entre 1975 et 2000, qui a été publié chez l'Harmattan et qui réunit une série de textes écrits par des auteurs militantes chercheuses ou pas, enfin, et qui ont été traduits et choisis, présentés par Elsa Dorlin, qui est enseignante, chercheuse en sciences politiques, spécialiste justement du black feminism notamment. Et donc dans ce texte, il réunit une série d'articles écrits par, je vous cite tous les noms, vous irez checker sur internet. Ensuite, je vais pas vous présenter chacune des auteurs. Donc Combahee River Collective, j'espère que je le prononce bien, qui et n'est pas une personne, qui désigne un groupe, une organisation, dont je vous parlerai également légèrement plus tard. Ensuite, Laura Alexandra Harris, Beverly Guy Sheftall, Patricia Hill Collins, elle est assez connue, Kimberly Springer, enfin, je dis elle est assez connue, je dis les prénoms qui me sont familiers, Michelle Wallace, Barbara Smith, Audre Lorde, Hazel Carby et Bell Hooks, dont on a parlé une fois il y a quelques émissions. Voilà, je vais vous parler de quelques articles très brièvement. Un qui a été publié par le Combahee River Collective. Je vous en parlerai juste après. En fait, d'abord, je vais parler en fait de l'ensemble des associations pour vous présenter un petit peu juste l'histoire pour que vous puissiez vous repérer un petit peu dans cette histoire américaine noire américaine que l'on connaît et américaine que l'on connaît peu. Qui est souvent peu dont oui on connaît peu de choses. Je vous ai déjà parlé un peu du contexte des mouvements civil rights et des mouvements féministes dans les années 60-70 aux États-Unis qui diffère un peu du contexte français dans lequel il est beaucoup plus question de républicanisme dans les valeurs françaises. Bon, là je m'égare un petit peu. Quelles sont les organisations qui ont représenté que l'on pourrait rattacher au Black Feminism? Il y a donc la NBFO, National Black Organization, fondée en 1973. Qui militait contre le sexisme, le racisme, le classisme, l'homophobie et la lesbophobie. Il y a également, qui est assez connu, justement le Combahee River Collective, fondé en 1974 par des féministes noires, socialistes et lesbiennes, et dont le nom a été suggéré par Barbara Smith, en référence à une campagne menée par Hanset Tribman, qui en 1863 a contribué, dont la campagne a contribué à libérer 150 esclaves près de la justement fameuse rivière Combahee River. Voilà, et donc dans ces mouvements sont nés rencontrent plutôt de nombreuses on peine en fait tout simplement à percer, c'est-à-dire à être connu, à se visibiliser, à être reconnu surtout, parce que il faut combattre toutes les oppressions à la fois, et c'est pas évident parce que du coup on se fait attaquer un peu par tous les autres mouvements qui accusent de diviser, de désolidariser en fait les luttes, et donc elles ont été étiquetées fauteurs de troubles par un peu la plupart des mouvements politique, que ce soit noir ou féministe. Et donc, il s'agissait, enfin, elles ont le excusez-moi, l'organisation Combahee River Collective, qui rassemblait, comme j'ai dit, des féministes, donc des femmes noires lesbiennes, qui combattaient donc les oppressions concernant le sexisme, le racisme, le classisme et la lesbophobie, enfin l'homophobie. On fondait en fait un abri pour femmes battues. Ça a été l'une de leurs actions. C'est intéressant. J'ai lu ça en fait donc dans l'article de Combahee. C'est intéressant puisque je me rappelais en fait d'un article que j'avais lu de Kimberly Crenshaw, qui est l'auteur qui a inventé, enfin réfléchi et inventé le terme d'intersectionnalité dont on entend très souvent, et qui a étudié justement la condition des femmes noires, des femmes de couleur plutôt, dans les centres des centres de femmes battues, les centres d'accueil pour femmes battues et femmes violées, et qui observaient que souvent les centres étaient pas du tout mis en place, ne prenaient pas du tout en question les conditions de vie spécifiques des femmes de couleur, qui étaient souvent qui par exemple pouvaient ne pas, pour certaines, parler anglais, et qui ne mettaient pas du tout, qui ne donnaient pas du tout, qui n'avaient pas en fait des personnes qui étaient, qui avaient qui avaient d'autres compétences linguistiques que l'anglais, ce genre de choses comme ça qui contribuaient, oui, et qui n'avaient pas du tout, qui ne pensaient pas en fait à l'après. De l'accueil, où en général ces femmes qui vivaient dans une grande précarité, il ne suffisait pas juste d'accueillir et de les suivre pour ce qu'elles avaient subi auprès, enfin en tant que femmes battues et femmes violées, mais également en tant que femmes précaires, et donc c'était un petit peu les soucis qu'elle avait relevés. Et donc je reviens à l'article dont je vous parlais, qui est en fait un texte publié par le collectif, et qui explique que elles ont été comme je vous ai dit, beaucoup à être actives dans des groupes de libération noire, et qui ont essuyé une sacrée désillusion face à l'absence de problématiques sexuelles. Je vous lis un passage qui montre à quel point finalement, qui parle de la condition des femmes noires comme croisant, vivant, qui ne peut pas être lu comme simplement une espèce d'addition des oppressions, mais comme une spécificité vraiment d'un vécu, à la fois où l'on est opprimé, où elles sont opprimées sexuellement et racialement. Enfant, nous avons réalisé que nous étions différentes des garçons et qu'on nous traitait différemment. Par exemple, on nous disait dans un seul souffle de rester tranquille, à la fois pour parvenir à être de vraies dames et pour nous rendre moins critiquables aux yeux des blanches. En grandissant, nous prîmes conscience de la menace d'abus physiques et sexuels de la part des hommes. Cependant, nous n'avions aucun moyen de conceptualiser ce qui était ce qui était si visible pour nous, ce que nous savions se produire réellement. Ce que dit ces quelques lignes, c'est que être une femme noire dans la société américaine états-unienne des années 70, être une bonne, enfin être une femme noire, justement je mets des gros guillemets, c'est pouvoir devenir, c'est se conformer à un modèle de féminité dont l'idéal est blanc, mais qu'évidemment l'on n'atteindra jamais. Et donc vivre l'oppression sexuelle également dans un climat raciste permanent et très puissant. Il est ensuite dit que pour le Combahee River, elles disent également qu'elles s'opposent. C'est un point assez important. Elles s'opposent au séparatisme lesbien. Enfin, puisque voilà, vous avez certainement entendu parler de Monique Wittig, par exemple, qui est une féministe française pour le coup, mais qui est quand même pas mal voyagée et notamment été pas mal aux États-Unis et qui donc disait par exemple les lesbiennes ne sont pas des femmes et qui voilà était pour l'autonomisation d'un mouvement politique lesbien et en montrant que finalement la sexualité je vais pas revenir sur Monique Wittig, ce n'est pas la question, mais en tout cas qui voilà s'opposait au séparatisme des femmes blanches lesbiennes, puisque en fait même si elles-mêmes voilà sont lesbiennes, elles ne veulent pas se désolidariser des hommes noirs, elles veulent rester solidaires des hommes noirs progressistes, et c'est un peu le comment dire, ce qu'elles reprochent finalement à ces mouvements. Évidemment, elles sont critiques de tous les autres mouvements, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elles sont critiques de tous les mouvements politiques qui finalement n'articulent pas assez bien les différentes formes d'oppression en ne pensant pas à la spécificité de chacune des oppressions et en les oubliant. Il est évidemment ce que soulève le collectif, c'est le coût psychologique de ce combat, tout simplement parce que ces femmes sont en bas de l'échelle, mais tout en bas de l'échelle sociale. Et donc ce que dit, je cite une phrase qui dit: cette société à la fois raciste et sexiste accorde une valeur extrêmement basse au psychisme des femmes noires. Déjà, les femmes blanches ou noires sont de fait considéré comme souvent moins légitime à parler d'un sujet politique puisque c'est pensé comme étant on sous-estime, on mésestime en tout cas leur capacité intellectuelle, c'est également valable, également valable en tout cas pour les questions de racisme, donc voilà. Et Michelle Wallace, dans un autre article, parle quant à elle, qui dans un article qui est présent dans ce livre Black Feminism, qui s'appelle Une féministe noire en quête de sororité, qui a été publié dans The Village Voice en 1975. Et Michelle Wallace, qui parle de son parcours, en fait, qui revient, c'est un récit, c'est très agréable à lire, c'est très très simple, très abordable, tout en étant très pertinent et intelligent. Qui raconte en fait sa condition, enfin revient sur son parcours politique et personnel et intime, et qui raconte ses difficultés à trouver une identité politique, puisque elle ne se reconnaît dans aucun des mouvements. Et elle dit à la fin de son article, je retrouve très rapidement le voilà, elle dit à la fin: nous existons en tant que femmes, femmes noires, femmes féministes. Pour l'instant, chacune d'entre nous est bloquée, chacune travaille de façon indépendante, parce qu'il n'y a pas encore, dans cette société, d'environnement un tant soit peu propice à notre combat, parce que nous sommes tout en bas, et qu'il nous faudrait faire ce que personne d'autre n'a fait avant nous. Il faudrait nous battre contre le monde entier. Cette phrase est assez puissante et je pense que elle résume bien un argument assez fort du livre que je lisais, à savoir que cette accumulation d'oppression tend à invisibiliser très facilement les femmes noires. Et donc le problème dont j'ai déjà parlé, à savoir que j'ai vite rapidement évoqué, c'est que le racisme des féministes blanches qu'il est important de relever, de reconnaître, et même qu'il est important de travailler sur les clichés qui peuvent être véhiculés, pensés parmi les mouvements féministes, les clichés clichés racistes. Et notamment, c'est une phrase bien connue de, il me semble, Patricia Hill Collins, qui est un titre de livre en fait, et qui s'appelle All the women are white, all the black are men. Toutes les femmes sont blanches, tous les hommes sont noirs. C'est-à-dire l'idée, quand on parle hommes et femmes, il y a finalement une forme de... On présuppose que les femmes sont blanches, en tout cas on parle en fait implicitement des femmes blanches, et quand on parle des noirs, que ce soit lorsqu'on parle en tant que raciste ou en tant qu'antiraciste, on pense le moins en bien souvent pas aux femmes. Aux femmes noires du coup. Voilà, et donc Michel Wallace relève justement ce problème de la survalorisation des femmes blanches qui en fait constituent la norme de beauté et qui contribue à désolidariser en fait les femmes blanches et les femmes noires, puisque page 52 du livre, elle écrit, je retrouve très rapidement, alors ce qui me rappelle, alors chaque fois qu'en parlant avec un homme noir je soulevais la question de l'humanité des femmes noires, j'obtenais la même réaction. Les hommes noirs, du moins ceux que je connaissais, semblaient complètement incapables de considérer les femmes noires comme des personnes. Je connais une jeune femme noire qui, pour se conformer au modèle féminin de douceur et de gentillesse que lui présentaient les frères de la nation, a un jour salué chaleureusement un type croisé sur le Riverside Drive. Il répondit en la violant. Quand elle a demandé aux frères ce qu'elle devait faire, ils lui ont dit de ne pas aller à la police et de garder le bébé, alors qu'elle n'avait que 17 ans. J'ai des copines qui ont abandonné l'école parce que leur petite amie les a convaincues qu'il était incorrect et contre-révolutionnaire de chercher à faire autre chose que d'élever des enfants et de faire le ménage. Aider le frère à se réaliser, disait-il, etc., etc. Je reviens dans un autre passage un peu plus tard, je saute un petit passage. J'ai fini par comprendre que le noir, pétri de haine pour les blancs, trouvait la femme blanche irrésistible, parce qu'elle n'était pas pour lui un être humain, mais une possession, le modèle de luxe des femmes produits qu'il voyait à la télévision. Je sais que l'homme, et là elle cite, je sais que l'homme blanc a fait de la femme blanche le symbole de la liberté et de la femme noire le symbole de l'esclavage. Ce passage que je trouve vraiment, Michel Wallace, son article, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est, c'est une bombe d'émotion, enfin, et il est vraiment intelligent et très, très difficile, très facile, je voulais dire, à lire en fait, même sans connaissance précise de l'histoire féministe ou états-unienne ou des mouvements noirs, etc., de libération noire. Voilà. Et donc ce que dit cet extrait, après je vais terminer avec ça et ensuite on aura terminé l'émission, je pense. C'était que parmi les plusieurs choses qu'on pourrait dire du mouvement. Du mouvement de Black Feminism, c'est l'idée de remettre en question un sujet femme présupposément blanc parmi le mouvement féministe et un sujet noir politiquement présupposément homme et qui invisibilise de fait les femmes noires. Puisque il n'en est question dans aucun des deux mouvements, et c'est ce qu'elle donne comme exemple là en parlant finalement de son expérience où elle disait oui les hommes noirs critiquent les blancs puisque ce sont nos oppresseurs, mais par contre ils sont bien contents de sortir avec des femmes blanches parce qu'elles représentent cet idéal de beauté, et ça ils ne déconstruisent pas du tout et puis qu'ils continuent à véhiculer un nombre de clichés sexistes imbuvables, sans pour autant qu'on ne leur dise rien, puisque les féministes blanches, lorsque l'on parle de ça, disent oui, mais les hommes noirs ne sont pas des oppresseurs. Et c'est le problème de enfin cet ensemble de problèmes de croisement des luttes en fait. Qui est trois ans des oppressions que soulève ce bouquin. Donc je vous conseille fortement de le lire, vraiment. Il est vraiment super. Il est il est génial que ce soit pour se mettre au courant de l'histoire du black féminisme, enfin d'un point de vue historique, que même enfin de certaines notions de base du féminisme, c'est abordable, c'est concis, voilà, bref, voilà. Donc je pense que là on peut avoir terminé. Je sais pas si tu veux dire des choses sur cette présentation, et mais en tout cas après je mettrai la dernière musique et puis on vous dira
bonne nuit. Non, rien. Je pense que t'as bien montré la notion de intersectionnalité finalement et de comment c'était. Enfin, le point principal de ce black féminisme justement, qui était de faire converger les luttes à la fois antiraciales et féministes, quoi. Et les problèmes qui étaient liés à ce travail de convergence, quoi. Qui était après taxé de désolidarisation, quoi. Que ce soit avec les femmes ou avec donc ouais non tu l'as vachement bien expliqué je pense donc on peut mettre le petit morceau tout de suite. Je sais plus comment il s'appelait.
Alors c'est du groupe dont on a parlé en début d'émission qui s'appelle La Femme, et qui est le nom de la chanson, c'est Sur la planche. Voilà, on vous balance cette musique et on vous dit
bonne nuit
et à dans 15 jours.
Salut.